Voilà, donc bonjour à tous. On va partager cet après-midi sur le thème du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 3, et le verset 11. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut tout d'abord savoir qu'il n'y a pas unanimité dans le monde évangélique concernant cette question du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a deux courants qui s'affrontent en quelque sorte. D'abord le courant des baptistes qui considèrent que, la plupart des baptistes considèrent que le baptême du Saint-Esprit c'est une expérience qui est faite à la conversion. Pour eux, le baptême du Saint-Esprit, donc, c'est l'équivalent de la nouvelle naissance. Et il n'est pas besoin de le rechercher puisque les chrétiens sont d'office baptisés du Saint-Esprit du fait qu'ils sont chrétiens. Vous trouvez cette position théologique affirmée dans le Nouveau Commentaire biblique, par exemple, qui dit ceci: l'homme régénéré n'a donc plus à rechercher le baptême de l'Esprit ni un nouveau baptême, ce qui n'existe pas, mais la plénitude de l'Esprit constamment renouvelée. Donc, vous voyez, ça c'est une position à laquelle, bien sûr, nous n'adhérons pas, mais qui existe parmi les chrétiens évangéliques, hein, il faut le savoir. L'autre position, c'est celle donc des pentecôtistes qui voient dans le baptême du Saint-Esprit une expérience distincte de la conversion. C'est donc ce que nous croyons et nous pensons même qu'il est même important de le rechercher et que cette bénédiction est pour tous les croyants. Alors, le baptême du Saint-Esprit nous permet aussi d'avancer spirituellement et notamment dans les dons spirituels. Donc il faut distinguer, ce qu'on dira en introduction, c'est qu'il faut distinguer entre baptême du Saint-Esprit et présence du Saint-Esprit. Nous croyons effectivement que lorsque l'on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous, mais nous le distinguons du baptême dans le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en nous, pourquoi? Parce que nul ne peut être chrétien si ce n'est par l'Esprit de Dieu, s'il n'est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas dire que un chrétien, oui mais lui il n'a pas l'Esprit. Si on dit qu'il n'a pas l'Esprit, on dit qu'il n'est pas chrétien. Mais par contre on peut dire qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il peut avoir donc la nouvelle naissance sans être baptisé dans le Saint-Esprit, mais de dire qu'il n'a pas l'Esprit c'est un petit peu maladroit, dans le sens où tout chrétien enfant de Dieu est né de Dieu, est né de l'Esprit, et donc a commencé cette sanctification. Vous savez que le Saint-Esprit habite en nous, il nous pousse à la sanctification, et on a des frères qui sont évangéliques, baptistes, et qui aussi avancent dans la sanctification, dans les fruits de l'Esprit, qui est l'œuvre de l'Esprit en nous. Si une personne n'a pas l'Esprit, on peut dire que si elle n'a pas du tout l'Esprit, c'est qu'elle n'est pas encore née de nouveau. Donc on peut très bien avoir la nouvelle naissance, avoir l'Esprit en quelque sorte, sans avoir encore reçu le baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience distincte de la conversion et qui est à distinguer donc de ce que nous avons dit précédemment. Bon, alors un premier point, on lit le texte dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Premier point, la promesse. La promesse, elle vient de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il est dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, à qui fait allusion Jean-Baptiste quand il dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Il fait allusion à Jésus. Jésus donc viendra après lui et il sera plus puissant que lui. Jean-Baptiste dit ici qu'il n'est qu'un précurseur, celui qui annonce la venue du Messie. Et Jean-Baptiste a d'ailleurs baptisé d'eau et c'était aussi un baptême précurseur du baptême qui allait être fait au nom de Jésus. Le baptême de Jean, un baptême de repentance. Les disciples de Jésus ont aussi baptisé d'eau. Et la Bible dit que même ils commençaient à avoir plus de succès que Jean-Baptiste. Si bien que les disciples de Jean étaient inquiets en disant « Mais tous vont à Jésus. » Mais il n'y avait pas opposition, vous voyez, entre Jean-Baptiste et Jésus comme une concurrence. Parce que Jean-Baptiste a bien expliqué « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il disait en quelque sorte, ma situation est provisoire, moi je suis le précurseur, je vous ai annoncé la venue du Fils de Dieu, du Messie, qui va baptiser du Saint-Esprit de feu. Et le baptême qu'il avait instauré, qui était le baptême de repentance, c'était provisoire aussi, il y allait le baptême d'eau au nom de Jésus qui allait venir. Donc Jean-Baptiste savait toutes ces choses, il a prêché bien sûr la repentance, et ça c'est nécessaire pour un retour à Dieu avec un cœur repentant, un cœur sincère, loin de l'hypocrisie des religieux. Jésus aussi a prêché la repentance et il a ajouté la nécessité de la foi. Jésus disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». On peut dire que Jean-Baptiste s'est arrêté au niveau de la repentance, mais que Jésus a complété avec la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi dans le nom de Jésus, dans la bonne nouvelle, va ouvrir la nouvelle alliance. Jean-Baptiste y clôturait l'ancienne alliance. Jésus a ouvert la nouvelle alliance. Il y a eu donc ce chevauchement entre Jean-Baptiste et Jésus. Et donc, Jean-Baptiste a clairement annoncé, « Celui qui viendra après moi, donc Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste a reconnu plusieurs choses. D'abord, il a reconnu la toute-puissance de celui qui viendrait après lui, de Jésus. « Il est plus grand que moi. » En effet, Jésus a une puissance sans limite. Il n'a ni commencement ni fin, dit la parole de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé tout parce qu'il est la parole de Dieu. Et tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Donc, Jean-Baptiste confesse déjà la toute-puissance de Jésus. Ensuite, Jean-Baptiste, dans ce texte, il reconnaît son indignité. Il ne se sent pas digne de porter ses souliers. Et donc, ceci signifie que même... Si Jean-Baptiste a eu des privilèges, il est même dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète de l'ancienne alliance. Eh bien, lui, il ne se sent pas digne face au Fils de Dieu. Même le plus avancé spirituellement, on peut dire, sur cette terre, celui qui a fait des plus grandes expériences avec Dieu, eh bien, nous devons toujours reconnaître nos failles et nos limites quand on contemple notre modèle qui est le Fils de Dieu parfait. La Bible dit sans défaut, sans tâche. Pur. Et Jean-Baptiste certainement était un homme pieux, un homme saint, un homme remarquable, mais voyez, il dit, mais moi je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Donc il s'humilie devant le Seigneur. Je crois que pour nous c'est pareil, nous ne pouvons pas venir autrement à Jésus qu'avec un cœur humilié, en se ressentant notre indignité. Et puis Jean-Baptiste a bien discerné, et ça on ne peut pas dire qu'il l'a inventé de sa propre initiative, mais Jean-Baptiste était prophète. Donc il a reçu de Dieu cette pensée qu'il y allait y avoir un baptême du Saint-Esprit dans l'avenir. Il l'a reçu par révélation. On peut dire que lui-même n'en a pas vu l'accomplissement parce qu'il a été tué avant même de voir ces choses se produire. Il était le précurseur et puis son temps a été terminé et les hommes l'ont tué. Mais ce baptême spirituel, le baptême du Saint-Esprit, Jean-Baptiste l'a quand même annoncé. Il l'a reçu par révélation. Alors, il n'a pas dit comment ça allait se produire. Il ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Il n'a même pas parlé du parler en langue ici. Il ne savait pas ce qu'il allait y avoir comme signe ou comme conséquence à ce baptême dans la vie du croyant. Il a simplement dit, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc, il allait se passer quelque chose pour les croyants qui allaient suivre Jésus. Et c'est tout ce qu'il a dit. Il a juste cette certitude que Jésus le fera. Alors, qu'est-ce que c'est le feu ? Le feu, ça peut, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le feu peut évoquer la purification que le Saint-Esprit fait dans l'œuvre, dans la vie du croyant. Et puis le feu évoque aussi une ardeur nouvelle. Car quand on est gagné par un sommeil, on est... endormi, on devient religieux, mais quand on a un feu dans notre cœur, le feu pour le Seigneur, un feu dévorant, c'est un feu pour Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'allume dans notre cœur. Le feu est un des symboles du Saint-Esprit dans la Bible, et il va se manifester ainsi lors de la première Pentecôte. Donc dans ce premier point, nous parlons de la promesse. On a dit premièrement, Jean-Baptiste a promis, il a dit, quelqu'un viendra après moi. Mais Jésus aussi a annoncé une promesse dans Actes chapitre 1 verset 4, lui-même a dit, il viendra un baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire les disciples, Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et pratiquement, Jésus cite une partie des paroles de Jean-Baptiste qu'il avait reçues de Dieu. « Vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Après la croix, Jésus ici n'est pas encore remonté au ciel. On sait que Jésus est resté dans une période de 40 jours avant de remonter au ciel, c'est-à-dire l'ascension. Il a enseigné les disciples pendant cet intervalle entre la croix et l'ascension. Et dans cet intervalle, on voit que Jésus a réitéré la promesse. Oui, vous en aviez entendu par Jean-Baptiste. Mais moi, je vous rappelle cette promesse qui vient du Père. Elle ne venait même pas de Jean-Baptiste, elle venait de Dieu. Et il dit, ce que le Père a promis à propos du Saint-Esprit, eh bien, attendez-le parce que ça va venir. Donc on voit que Jésus lui-même prépare les disciples à l'imminence du baptême dans Saint-Esprit. Notez que Jésus ne parle pas du parler en langue, il ne parle pas des conséquences, il ne parle pas des manifestations, mais il dit juste qu'il va se passer quelque chose. Alors, Jésus recommande deux choses dans ce texte. Littéralement, d'ailleurs, si vous lisez la version Darby, il est dit que Jésus leur commanda. Littéralement, il commanda, il ordonna ou il exigea. Les deux choses que Jésus ordonne, premièrement, ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Parce que c'est la ville où Dieu a manifesté sa présence lui-même. C'est vrai que Jérusalem a eu certaines failles. Par exemple, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Jésus, à un moment donné, a pleuré sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». Elle n'avait pas reconnu les temps qui étaient les siens, les temps de la visitation de Dieu et de la venue du Fils de Dieu. Jésus, même publiquement, a été rejeté par les Juifs à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Il a dû s'enfuir parce qu'il avait voulu mettre de l'ordre. Vous savez qu'il y avait certains péchés qui s'étaient installés. Il a dû s'enfuir de son propre temple. Et puis il a été crucifié. Donc traité comme un criminel entre Barabbas et Jésus, la foule a choisi de crucifier Jésus et de relâcher Barabbas. Donc il a été victime d'une injustice à Jérusalem. Mais on voit quand même que même si cette ville était réfractaire à tout ce que Dieu avait prévu pour elle, le cœur de Dieu vis-à-vis de cette ville n'a pas changé parce qu'il aime toujours Jérusalem. Il est dit dans la parole concernant Jérusalem, je t'ai gravé sur mes mains. Et il y a toujours cette affection de Dieu pour cette ville de Jérusalem, ce peuple juif. Et c'est à Jérusalem d'ailleurs qu'a eu lieu effectivement le premier baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, alors que les disciples étaient les 120 disciples étaient rassemblés, et c'est à Jérusalem que l'évangile a été annoncé la première fois et que Pierre a permis à 3000 personnes d'être sauvées. Vous connaissez ce texte dans Actes 2 qui nous montre vraiment l'action puissante du Saint-Esprit maintenant qui va se manifester au travers des disciples. Premier ordre de Jésus, ne vous éloignez pas de Jérusalem parce que c'est sous-entendu, c'est à Jérusalem que le baptême du Saint-Esprit va se passer. Donc, ils avaient cette indication. La deuxième indication qu'ils avaient, attendez jusqu'à l'obtention de la promesse. En fait, les disciples ne savaient pas exactement ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. Personne n'avait encore parlé en langue. Donc, ils ne savaient pas comment ça allait se manifester. Mais il suffisait d'obéir aux ordres de Jésus. Il suffisait d'attendre, de prier et d'attendre cette venue du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit. Et finalement, ce n'était pas si difficile que ça à mettre en pratique. Tout le monde pouvait le faire. Tout le monde, je dirais oui et non, parce que si on regarde, on a dit que Jésus était resté 40 jours et qu'il avait eu le temps d'enseigner, mais il est dit que plus de 500 frères l'avaient vu ressusciter Jésus. Mais parmi ces 500 frères, combien ont persévéré dans la prière ? Le chiffre, il nous est dit qu'il s'est redescendu à 120. Il n'y avait que 120 disciples qui persévéraient dans la prière jusqu'au moment du baptême du Saint-Esprit. Donc oui, c'était possible, oui, c'était offert à tous, mais on voit que déjà à l'époque, tous n'ont pas cherché la bénédiction et tous n'ont pas persévéré jusqu'à la bénédiction. Les 120, eux, ont persévéré dans la prière, dans une chambre haute, exactement comme Jésus l'a dit, sans s'éloigner de Jérusalem, en attendant la promesse, mais sans exactement savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et vous savez, ce n'est pas toujours évident d'attendre comme ça, de prier. Et puis, parce que le premier jour, il ne se passe rien, le deuxième jour non plus, le troisième jour, et il a fallu qu'il persévère dans la foi, sans voir encore l'exaucement. Ils ont attendu jusqu'à ce que, c'était les précurseurs des jusqu'au boutistes, et nous devons être de ces chrétiens qui tiennent jusqu'au bout pour le Seigneur, jusqu'à ce que la bénédiction arrive. Alors, 3 jours, 4 jours, est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que parmi les 120, il y en a qui ont commencé à douter là-dedans? On ne sait pas, peut-être il y en a qui disaient, est-ce qu'on revient demain? Est-ce qu'on continue? 6e jour, 7e jour, peut-être le découragement aussi était là pour certains, ils se disaient, mais on ne voit rien, 8e, 9e jour, jusqu'au 10e jour. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, la Bible dit, le 10e jour, que la promesse s'est manifestée. Donc ceci nous montre que Dieu fait des promesses, il nous donne des consignes, mais c'est à nous ensuite de persévérer, et que Dieu ne va pas persévérer à notre place. Il nous donne juste les promesses et les directives. Après, chacun est libre, et on peut bénir le Seigneur qu'il y ait quand même eu 120 croyants qui soient restés fidèles jusqu'à l'obtention de la promesse. On pourrait dire que c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus, mais au moins il y en avait quand même déjà ce nombre-là, et puis après ça a fait boule de neige. Jésus précise 2 choses concernant le baptême du Saint-Esprit. D'abord, il dit « c'est une promesse de Dieu », et si c'est une promesse de Dieu, elle est valable aussi pour nous et elle se produira infailliblement parce que Dieu l'a planifié. Et donc, quand Jésus dit dans d'attendre ce que le Père vous a promis, donc si le Père l'a promis, c'est que ça va se réaliser, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à douter. Donc Jésus affirme, c'est une promesse de Dieu, Jésus affirme aussi que le baptême du Saint-Esprit a été aussi annoncé par Jésus lui-même, lorsqu'il dit d'attendre ce que le Père avait promis, et Jésus poursuit, ce que je vous ai annoncé. Donc Jésus en a aussi parlé aux disciples en leur disant, oui, vous aussi, je vous le dis, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et non seulement Jean-Baptiste l'a dit, Dieu le Père l'a dit, mais Jésus aussi l'a confirmé, il y avait suffisamment de promesses pour que les disciples aient cette certitude dans leur cœur. C'est donc, pour eux, ils partent avec des éléments favorables, ils n'avaient plus qu'à attendre. Alors, une deuxième partie maintenant, on a vu la promesse, on a parlé de Jean-Baptiste qui l'a promis, Jésus qui l'a promis, et on peut dire dans une deuxième partie maintenant, c'est l'accomplissement de la promesse, on va dans Actes chapitre 2 et au verset 1. On est donc là, au bout des 10e jours d'attente, on a dit qu'ils sont restés là pendant 10 jours à attendre la promesse. Le jour de la Pentecôte, verset 1. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup il vint du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, première indication dans ce texte, l'événement du baptême dans Saint-Esprit, le premier, s'est passé un jour de Pentecôte. Un jour de Pentecôte, la Pentecôte ou la fête des semaines pour les Juifs qui existe toujours. Hein. Chez les Juifs, c'est la deuxième des troisièmes grandes fêtes annuelles des Juifs avec la Pâque. Il y a la Pâque, les semaines et les tabernacles. Donc les semaines, c'est... une fête qui avait lieu au lendemain du 7e sabbat suivant la Pâque, c'est-à-dire le 50e jour, d'où l'expression la Pentecôte, hein, puisque Pentecôte, ça vient du grec qui évoque 50. Et ce jour-là, c'était un jour férié, le travail était suspendu, il y avait la convocation solennelle, on offrait aussi 2 pains de froment nouveau qu'on agitait avec une gerbe des prémices de l'orge, symbole de la consécration et de la moisson. Il y avait des holocaustes, bien sûr, des animaux sacrifiés. Tout cela était fait pour Dieu. Il y avait un bouc en sacrifice, 2 agneaux en sacrifice d'action de grâce, etc. Alors c'était une fête, il faut comprendre que la Pentecôte a eu lieu dans le cadre d'une fête juive. La fête juive, c'est la fête des semaines ou de la Pentecôte pour nous. Et en fait, ce jour... Beaucoup le voient comme un jour décisif pour l'Église parce que c'est là que finalement l'Église a pris corps, qu'elle s'est constituée. Le jour de la Pentecôte est tombé un dimanche. Ce n'est pas un hasard. Si le jour était un dimanche, il faut savoir aussi que la résurrection de Jésus avait eu lieu déjà un dimanche et que le jour de rassemblement des premiers croyants était déjà fixé au dimanche. Et c'est donc un dimanche que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Donc, première chose qu'on voit dans ce texte, l'accomplissement de la promesse, ça se passe un jour de Pentecôte. On voit les symboles du Saint-Esprit qui sont manifestés, c'est-à-dire, d'abord il est dit que l'Esprit est survenu de manière inattendue et soudaine. Tout à coup, il est dit, verset 2, tout à coup il vient du ciel. Donc, sans que finalement les disciples, bien sûr ils s'attendaient à la promesse, mais en même temps, ils ne savaient pas quand elle allait venir, ils ne savaient même pas que ça allait être ce jour-là. Et ils ont été même surpris, saisis de cette venue impromptue. Les disciples étaient assis, ce qui signifie plusieurs se sont posé la question de savoir s'ils étaient en prière à ce moment-là, parce qu'en général, les Juifs prient debout. C'est possible aussi qu'ils n'étaient pas en prière au moment de la survenue du Saint-Esprit, mais qu'ils étaient là dans la méditation ou dans le recueillement, dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. En fait, on remarque qu'il y a eu un bruit d'un vent audible. Il est dit, verset 2, « Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. » Alors ça, c'est une manifestation surnaturelle. Il n'est pas dit qu'il s'agissait d'un réel vent, mais il est dit qu'il y avait un bruit comme celui d'un vent. C'est plutôt sur le bruit qui ressemble à celui du vent qu'il nous faut apporter notre attention. C'est un vent impétueux, c'est-à-dire un vent violent comme une rafale, ça représente bien la puissance du Saint-Esprit qui vient d'une manière glorieuse dans ce lieu. Le vent est aussi un des symboles du Saint-Esprit. Par exemple, en hébreu, le mot esprit se dit roua, qui signifie aussi souffle, vent. Jésus avait repris ces deux symboles à plusieurs reprises dans Jean 3,8 lorsqu'il dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Déjà, il était question du vent qui souffle et du bruit du vent. Dans Jean 20 aussi, verset 22, il est dit que Jésus a soufflé sur les disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit », comme si le souffle, ce vent, était aussi un symbole du Saint-Esprit. Donc on voit qu'il y a le bruit d'un vent, un peu comme un des symboles du Saint-Esprit, et puis le feu, des langues semblables à des langues de feu, et ça c'était visible. On a la partie audible, un bruit comme un vent, on a la partie visible, des flammes de feu, comme des flammes de feu qui étaient là, des langues de feu. Alors il n'est pas dit non plus que c'était un feu réel, hein. Si on regarde bien, il est dit des langues semblables à des langues de feu. Ça ressemblait à du feu, mais évidemment, s'ils avaient mis leurs mains dessus, ce n'était probablement pas d'un feu comme on aurait pu allumer avec du bois. Ça ressemblait à du feu, voilà comment il s'exprime. Donc c'était quelque chose, bien sûr, comme une vision spirituelle. Et la Bible dit que donc, semblable à des langues de feu, sur la tête de chacun des personnes qui étaient là, elles se posèrent sur chacun d'eux. Et c'est donc ainsi que la première Pentecôte s'est produite. Alors, ces langues de feu qui se séparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction, elle était pour tout le monde. Et que tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit. Le feu, bien sûr, c'est aussi un des symboles du Saint-Esprit. Déjà dans l'Ancien Testament, vous savez que Dieu, par exemple, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, c'était au travers d'un buisson en feu. On l'appelle le buisson ardent parce que le buisson brûlait et ne se consumait point. Le feu est aussi... Jésus avait dit, par exemple, qu'il baptiserait ses disciples du Saint-Esprit et de feu. Donc on voit encore là un symbole du Saint-Esprit. Certains ont vu dans le feu le baptême du jugement, d'autres ont vu le baptême de souffrance. On peut penser tout simplement que le feu symbolise l'action du Saint-Esprit qui purifie, qui consume, qui est le feu de l'autel, le feu de la consécration, qui est le feu qui brûle dans notre cœur pour Dieu. Tous les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Non pas qu'ils n'avaient aucune relation avec le Saint-Esprit, on l'a dit en introduction, Jésus d'ailleurs avait déjà soufflé sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Nous croyons que les disciples étaient déjà nés de nouveau et qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux, sauf qu'ils n'avaient pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est la plénitude, c'est l'expérience qui vient en deuxième, après la nouvelle naissance. Alors, comment s'est manifesté le baptême du Saint-Esprit, si on regarde, au-delà de ce bruit comme celui d'un vent et de ces langues de feu, disons, semblables à des langues de feu, c'est comme une vision, il est dit qu'ils se mirent tous à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà donc un signe audible de l'action du Saint-Esprit dans les personnes, c'est qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues, des langues pas, non pas des langues qu'ils connaissaient déjà, mais des langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si on lit la suite du texte, on voit qu'il y avait 15, enfin, qui sont mentionnés en tout cas, les langues étaient toutes différentes, il y avait 15 nationalités qui étaient présentes ce jour-là, puisque c'était une fête juive, et les Juifs venaient de différents pays pour honorer Dieu le jour de cette fête, et ils disaient, mais nous entendons dans nos langues les merveilles de Dieu. Et ils entendaient donc des parler en langue, mais dans leur langue, des différentes nationalités qui étaient à Jérusalem à cette époque. Ces langues n'étaient pas incompréhensibles pour ceux qui les entendaient. Peut-être celui qui parlait ne comprenait rien à ce qu'il disait lui-même, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les langues, et peut-être si on connaît, nous, le français, on connaît peut-être un peu l'anglais, un petit peu l'allemand, l'espagnol, et puis on est assez limité. Il y a des multitudes de langues que nous ignorons. Mais quelqu'un qui parle en langue selon l'Esprit peut parler les langues des hommes et des anges, dit la parole de Dieu. Il y a une multitude de langues que nous ignorons. Et en tout cas, même si elles n'étaient pas compréhensibles pour celui qui parlait, il est dit que ceux qui entendaient, eux, ils entendaient parler des merveilles de Dieu. Une troisième partie maintenant, ce sont les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit. Quelles sont les conséquences? Première conséquence, le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance pour le témoignage. Luc 24, verset 49 dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà comment Jésus appelle le baptême du Saint-Esprit à venir, un revêtement de la puissance d'en haut. Actes, chapitre 1, verset 8 « Mais vous recevrez une puissance, dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors Jésus a précisé à plusieurs reprises qu'il enverrait le Consolateur. « Il vous est avantageux, il a dit, que je m'en aille, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. » Et il explique ici que cet Esprit, pour vous, ça sera comme un revêtement de puissance. Le but, c'est donc de rendre les témoins efficaces dans leur mission. Et Jésus va même préciser leur mission. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Être un témoin, c'est être quelqu'un qui parle de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Un témoin. C'est ce que nous sommes pour Dieu. Nous avons vu des choses de Dieu, nous avons fait des expériences avec Dieu, alors nous pouvons les communiquer autour de nous. C'est ça, être un témoin. Et un témoin, donc, quand il est rempli du Saint-Esprit, il va dire, il va partager ce qu'il a fait comme expérience avec Jésus. Et cela est une bénédiction aussi pour les autres. Alors, il va dire comment il a rencontré Jésus, ce qui s'est passé dans sa vie. Il va témoigner, en quelque sorte, de son expérience. Et cela peut amener d'autres personnes à réaliser aussi qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin du Sauveur. Ce verset s'est littéralement accompli, car le jour de la Pentecôte, quand il est dit que le Saint-Esprit les a baptisés ainsi ce jour-là, on peut dire que les disciples ont été délivrés de leur timidité et de leur crainte. On sait que jusqu'au baptême du Saint-Esprit, les disciples vivaient assez repliés sur eux-mêmes. Ils se cachaient des Juifs. Ils avaient peur, peut-être qu'on les malmène ou qu'on se moque d'eux, etc. Mais changement radical le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas peur de prêcher la parole de Dieu, de témoigner, si vous voulez, vous serez mes témoins, eh bien devant plusieurs milliers de personnes. Et là, on peut dire qu'il a changé du tout au tout. Hein. C'était plus le même Pierre. Et les apôtres, rapidement, si vous lisez la suite des actes, ils ont défendu publiquement leur foi, sans avoir crainte des Juifs. Donc ils étaient vraiment différents. Et ils répandaient partout le nom de Jésus dans Jérusalem. Il y avait aussi, bien sûr, ils étaient remplis de la puissance, donc il y avait les miracles qui accompagnaient la prédication de la parole de Dieu. Il y avait des guérisons, des infirmes. On peut penser aux boiteux de la porte du temple, la libération de Pierre, etc. Même des résurrections avec Dorcas. Donc le baptême du Saint-Esprit a transformé des disciples craintifs en témoins victorieux. Ils sont allés, comme dit le texte, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et ils sont même allés jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ils ont accompli la promesse. Ils n'avaient aucun matériel. Quand on regarde leurs moyens si limités, eh bien on peut dire que c'était pas évident, mais ils l'ont fait avec leur peu d'outils, leur peu de moyens de communication, même ne serait-ce que pour entreprendre un voyage, le bateau, le temps que ça durait, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et ils l'ont fait en obéissant à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vous savez, on peut avoir toutes les technologies modernes, et merci Seigneur pour les voitures, c'est toujours mieux quand je vais à Grenade d'y aller en voiture que d'y aller à cheval ou en vélo, ça va quand même plus vite. Merci Seigneur pour les avions, pour les technologies actuelles, c'est une bonne chose. Mais ça ne supplante pas d'être rempli du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'on peut avoir tous les meilleurs moyens de communication modernes. Si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne fera pas l'œuvre de Dieu. Donc eux, on peut dire qu'ils n'avaient rien sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, alors là, ils étaient. La Bible dit que ces gens-là, ils ont bouleversé le monde de l'époque en venant en tout lieu prêcher la parole. Alors, la chose qu'on dit dans le baptême du Saint-Esprit, donc les conséquences, premièrement, c'est un revêtement de puissance, oui, pour le témoignage. Deuxième conséquence, c'est les langues qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. On l'a vu dans Acte 2, ils se mirent à parler en d'autres langues. Oui, c'était des langues ici existantes, même dans le monde de l'époque, et connues. Alors, et Paul évoque aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la diversité des langues, que ce soit les langues des hommes, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des dialectes, mais qui sont vraiment pour nous totalement inimaginable dans des régions les plus reculées, soit d'Afrique ou d'Inde. En Inde, je ne sais plus combien de milliers de langues il y a. Et même, il disait, le frère indien, que d'un village, vous passez à un autre village, c'est une autre langue. Il y a des tas et des tas, des tas de langues. Et ils disent que là-bas, pour être des prédicateurs, c'est drôlement compliqué parce que quand vous êtes dans une ville, bon, les gens vous comprennent, mais si vous voulez évangéliser le village d'après, il vous faut apprendre à nouveau toute la manière de parler, même la culture est différente. Et c'est, pour nous, ça nous étonne, mais c'est comme ça. Il y a des régions où il y a des multitudes et des multitudes de langues invraisemblables. Et ces parler en langue, en tout cas, ils exprimaient les merveilles de Dieu. On a un autre texte, si on va un peu plus loin, dans Acte 10 et au verset 44, où à nouveau, lorsque le Saint-Esprit est répandu, c'est accompagné de parler en langue. Acte chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il annonce l'évangile, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc un autre verset ici, où Pierre, il commence par annoncer Jésus, il commence par annoncer la croix. Il n'a même pas encore abordé la question du Saint-Esprit. Il s'adresse ici à des gens d'origine païenne, mais qui veulent savoir des choses sur Dieu. Alors même qu'il prêche la parole de Dieu, il a juste eu le temps d'annoncer Jésus-Christ, que déjà l'œuvre de Dieu se met en action dans cette réunion, et que le Saint-Esprit a agi. Et donc il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Ce n'était pas prévu. C'était même Pierre n'était même pas venu pour ça. Il n'avait même peut-être même pas envisagé, parce qu'il dit, mais quand il raconte ça, il dit, mais pouvions-nous refuser le baptême à des gens qui avaient été baptisés de la même manière que nous au début? Donc il était étonné même de voir que la bénédiction du baptême du Saint-Esprit, même des gens d'origine païenne pouvaient la vivre. Même quand il est rentré ici, il croyait que le baptême du Saint-Esprit, c'était encore que pour les Juifs. Il était encore assez limité dans ses raisonnements. Et là, le Seigneur lui a montré, non, la promesse est pour tous. Tous ceux qui sont au loin, même les gens d'origine païenne, ils peuvent bénéficier s'ils croient en Jésus, se convertissent. Là, on peut dire que dans la même réunion, des gens se sont repentis, ils ont accepté Jésus comme sauveur, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont été baptisés d'eau. Vous avez tous les éléments ici dans une seule réunion. Et je peux citer un dernier exemple, c'est dans Acte 19. Lorsqu'à Éphèse, Paul rencontre des disciples voyez, c'était des croyants, ces gens-là. Ils suivaient déjà, ils étaient disciples, ils suivaient Jésus. Mais il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur manquait quand même cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Non pas qu'ils ne croyaient pas déjà en Jésus, mais ils n'avaient pas fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et le verset 6 dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils priaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. C'était des disciples. Alors, ils avaient une lacune. C'est possible d'être croyant et puis d'avoir certaines lacunes. Or, Paul va mettre le doigt sur ce qui leur manquait. Et pour Paul, déjà, il n'y avait qu'un baptême valable. Ils n'avaient pas encore été baptisés au nom de Jésus, ces disciples-là. Ils n'avaient été baptisés qu'au nom du baptême de Jean. Donc, il y avait un petit problème à régler, celui du baptême, parce qu'il fallait être baptisé au nom de Jésus. Non pas que c'était un rebaptême, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas de rebaptême, mais c'était que le premier baptême n'était pas réellement valable. Il fallait déjà faire le baptême biblique. Le baptême biblique, il n'y en a qu'un. C'est le baptême par immersion. Donc, on est plongé entièrement dans l'eau, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Donc, il n'y a pas de problème. Si on est baptisé comme ça, c'est un baptême. Et bien sûr, il nous faut croire en Jésus comme le Sauveur. Donc, ses disciples, ils croyaient bien que Jésus était le Sauveur. Simplement, leur baptême n'était pas juste. Alors, ils l'ont baptisé au nom de Jésus. Et voilà, ils ont complété ce qui n'avait pas été fait finalement avant. Et ensuite, comme ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, eh bien, Paul, directement dans la foulée, a prié pour que le don du Saint-Esprit aussi tombe sur eux. Et effectivement, comment ça s'est manifesté? Eh bien, on le voit ici. Non seulement ils priaient en langue, mais en plus, ils prophétisaient. Donc déjà, ils exerçaient des dons spirituels. Et c'est vrai que souvent, le baptême du Saint-Esprit, on le dit, c'est un don qui permet aussi d'aller plus loin dans l'exercice des dons spirituels. Vous savez, il y a différents dons comme les dons de connaissance, prophétie ici, mais il y a aussi des paroles de foi, de sagesse, don de foi, etc. Alors, je remarque deux choses. Premièrement, déjà la diversité de la manière dont ça se passe. Car chez Corneille, on l'a dit, il n'y a pas eu de recherche particulière ou de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a précédé le baptême d'eau. Donc, les gens étaient là dans l'auditoire. Premièrement, ils ont été touchés par le message, ils se sont convertis. Leur cœur a été touché et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais ensuite seulement, ils ont été baptisés d'eau. Tandis qu'à Éphèse, je remarque que d'abord, il y a eu le baptême d'eau, il y a eu ensuite la prière pour le baptême du Saint-Esprit et il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que ça ne s'est pas passé dans le même sens. C'est pour montrer que pour Dieu, il y a une diversité d'actions et il n'y a pas de stéréotype. Dieu agit de manière diverse. L'important, c'est de vivre ces expériences, que ce soit dans un sens ou dans un autre, mais de les recevoir. Ensuite, je remarque par rapport au parler en langue, dans les trois cas qu'on a cités, acte 2, acte 19 et acte 10, dans ces trois cas, le parler en langue est un signe audible, une conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Certains ont fait fausse route en recherchant à parler en langue pour être baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est marcher à l'envers. Et des fois, il y en a qui, pendant des réunions, ont poussé des gens à parler en langue ou à chercher à imiter une langue, à copier une langue, etc. pour, entre guillemets, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais jamais on ne voit ça dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne la langue, donc c'est le Saint-Esprit qui baptise et nous ne devons même pas rechercher à parler en langue. C'est jamais écrit comme ça. La seule chose que nous devons rechercher, ce qui est écrit, c'est d'être baptisés du Saint-Esprit, oui. Et les conséquences du baptême du Saint-Esprit, elles viennent avec l'Esprit quand on y est baptisé. Donc c'est le parler en langue et c'est la puissance du Saint-Esprit. Une quatrième partie, pour terminer, c'est une expérience à rechercher pour nous encore aujourd'hui. Je reviens aux 120. Dans acte 1, il est dit que les 120, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, les premiers disciples, si vous voulez, nous ont montré le modèle à suivre, c'est-à-dire qu'ils ont persévéré dans la prière jusqu'à la bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit. cette persévérance, eh bien, ça doit être une caractéristique aussi des chrétiens d'aujourd'hui. Et il nous faut nous attendre chaque jour, si nous ne sommes pas encore baptisés du Saint-Esprit, à être baptisés du Saint-Esprit et à être renouvelés dans le Saint-Esprit. Ceci signifie qu'il ne faut pas se laisser décourager. Et c'est vrai que le diable, il fera tout pour nous dissuader de rechercher le baptême du Saint-Esprit ou d'avancer spirituellement. Alors ne l'écoutez pas, écoutez seulement la parole de Dieu, qui sont des promesses, qui nous dit « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. » Pierre a dit « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » C'est ça que nous devons croire, frères et sœurs, et pas croire les pensées de l'adversaire qui vous disent « Oui, mais toi, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit » ou « Toi, tu as prié, puis ce n'est pas produit. » Ça, c'est des paroles de découragement. Il faut savoir qui on veut écouter. Et aujourd'hui, on veut écouter la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Ce sont des promesses. Alors, à nous de persévérer. Et puis, toujours dans l'expérience à rechercher, non seulement il y a l'attente dans la persévérance, mais aussi un autre texte peut-être qui a suscité quelques difficultés, c'est 1 Corinthiens 12-13. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Voilà un verset qui a souvent été utilisé, qui est utilisé par ceux qui défendent l'idée que le baptême du Saint-Esprit c'est lié à la nouvelle naissance. Puisque dans ce texte, ça laisse entendre que tous ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc c'est pour eux un argument fort, un argument de poids, que de dire ici, voyez que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour former un seul corps, donc ça désigne ici la nouvelle naissance. C'est parce qu'on forme un seul corps qu'on est, on est le peuple de Dieu, on est croyant. Or, la traduction que nous avons, celle de Louis II, laisse entendre cette interprétation, malheureusement. Mais si vous regardez d'autres traductions plus récentes, comme la Seconde Révisée, elle respecte les mots en grec. Et en grec, ça dit ceci. « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » C'est une expression unique dans la parole de Dieu qu'on ne retrouve que dans ce verset, qui ne correspond pas aux expressions, toutes les expressions qu'on a citées de baptême dans le Saint-Esprit, qui sont collées. Ici, il est fait référence à l'immersion dans le Saint-Esprit, c'est comme ça que traduit parole vivante, qui va créer l'unité dans les croyants. Il n'est pas fait référence à ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit, mais il est utilisé le mot immergé dans le Saint-Esprit. C'est donc dans un seul esprit, pour former un seul corps, que nous avons tous été immergés. Et là, effectivement, on peut considérer que ce texte fait référence à la nouvelle naissance, mais qu'il ne fait pas référence à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Donc d'ailleurs, Paul n'utilise pas l'expression classique où elle est utilisée dans tous les autres cas. Effectivement, on ne peut pas nier le fait que tous les croyants, pentecôtistes ou non, mais ceux qui sont vraiment chrétiens, ils ont été immergés dans le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Ça, c'est un fait, qu'on ne peut pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Et tous les chrétiens bénéficient de l'eau de l'Esprit pour les abreuver, hein. Abreuver, donner à boire, arroser. Le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau qui va rafraîchir. Voilà. Donc ceci pour montrer que dans ce texte, cette expression ne correspond pas à l'expression habituelle pour parler du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous considérons qu'ici, il n'est pas question du baptême dans le Saint-Esprit où nous l'entendons d'une manière classique, mais plutôt d'une immersion dans l'Esprit qui fait référence au corps de Christ qui fait qu'on est le peuple de Dieu. D'ailleurs, c'est le seul texte qui est comme ça. Tous les autres textes ont une expression bien différente. Alors, le baptême du Saint-Esprit est une promesse valable pour tous les croyants. Nous devons persévérer dans la prière, conformément aux ordres de Dieu qui nous a dit, rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. On voit que les 120 ont persévéré, ils nous ont montré l'exemple, à nous de nous tenir devant le Seigneur. Jésus a fait la promesse, on peut être sûr qu'il la tiendra, mais c'est à nous de faire notre part. Et c'est vrai que c'est la liberté de chacun. On va prier le Seigneur un instant. Merci encore pour ta présence, ta parole et ton esprit qui agit dans le monde entier. Nous te louons parce que tu nous as dit qu'il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Consolateur. Et nous croyons que cette promesse est pour nous, pour nos enfants, ceux qui sont au loin. Et nous voulons avoir ce cœur ouvert et disponible, Seigneur. Merci de bénir ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience et de permettre que vraiment il y ait ces baptêmes du Saint-Esprit qui viennent de toi, Seigneur, ces langues qui viennent d'en haut. Merci encore pour ta grâce, ta présence, ta parole et ton secours. En toutes choses, nous te louons. Merci, Seigneur, et à toi toute la gloire. Amen.